c'est de ta faute. Moi, je ne suis.
Ne manquez pas la 18e édition du Festival international d'art numérique Electra le 28 et 29 juin à l'Usine C et à la Cinémathèque québécoise. Venez participer à la grande soirée d'ouverture We Are the Robots le 28 juin à l'Usine C. 49 personnes du public seront tirées au sort pour participer à la performance robotique Inferno dans laquelle leurs corps seront contrôlés par les machines au rythme de sons et lumières, créant des chorégraphies improbables. Alors, oseriez-vous être un robot pour un soir? Plus d'informations, electramontréal.ca ou sur la page Facebook Electra Festival d'art numérique.
La 17e édition du Suoni per il Popolo, le festival à la musique libérée qui fait trembler les murs, étend les esprits et ouvre les cœurs, devient une supernova du 1er au 24 juin. Au menu cette année, free jazz, noise, punk, nouvelle musique, opéra rock, spoken word, avant rock et art sonore. Une conférence Still Listening en mémoire à Pauline Oliveros. Trading Places, un échange d'artistes avec Vancouver. Une exposition d'art, des événements en extérieur. Plus d'infos en ligne sur suoniperilpopolo.org. Billets disponibles à la Casa del Popolo et dans vos magasins de disques préférés.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos auditeurs, vous écoutez la photo média sur les ondes de choc.ca. Ce soir à l'émission, nous avons beaucoup de pain sur la planche. D'abord, je vais faire un petit tour de table pour vous présenter nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. Donc, nous avons Étienne Tardy-Paradis, Frédéric Routier ainsi que Tessie Jean-Paul. Et avec moi à la technique et à l'organisation, il y a aussi Marie Chabot-Jensen. Et nous avons également Corinne Asselin en studio qui fait une chronique avec nous. Bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, bonsoir aussi à tous ceux qui nous écoutent sur le live Facebook. Je vais l'activer justement. Et voilà, c'est parti. Vous voyez nos binettes. Ce soir à l'émission, on va parler en fait des médias de région. Et pourquoi est-ce que les nouvelles régionales, on les entend pas ici à Montréal, on les entend pas dans les grands centres. Les médias, c'est une réflexion du réel, mais les médias sont basés géographiquement. Donc, ces médias-là qui sont en région ont tendance à pas percer à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui arrive avec les voix marginalisées? Qu'est-ce qui arrive avec les régions, les peuples? Quand on parle, par exemple, de médias autochtones, est-ce qu'on a des nouvelles de médias autochtones qui transpercent dans les médias nationaux? Très rarement. Il y a des disciplines aussi qui sont écartées. Donc, c'est un peu ça le thème général de l'émission ce soir. Comme premier chroniqueur, on va avoir un petit point de vue de l'international. Donc, Étienne, toi, tu vas nous parler des médias avec une vision un peu occidentalo-centriste.
Oui, exactement. Donc, bonjour tout le monde. Ce n'est pas un secret pour personne. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Je ne vous apprends également rien en affirmant que l'humain a cette fâcheuse tendance à se placer au centre de l'univers. Et ce, au détriment de son environnement immédiat, comme si le Soleil tournait autour de lui. Les grands médias de masse n'échappent certainement pas à cette tendance, même au contraire, ils la renforcent. Il suffit de regarder chez nous, en Amérique du Nord, où les médias nous renseignent à grands coups d'occidentalocentrisme, de clivage nord-sud, est-ouest ou encore de concepts simplistes tels que les bons, les méchants, les alliés, les ennemis. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'embrasser cette pratique qui nous submerge, de l'épouser, de me laisser emporter par la vague et de ne faire qu'un avec cette tendance avec grandiloquence à la sauce canadienne. En ce sens, nous allons voir de quoi nos journaux ont traité durant la dernière semaine. Tout d'abord, débutons notre voyage au centre du monde connu, à l'épicentre de la culture mondiale, le foyer de la liberté, le nombril de l'univers, les États-Unis d'Amérique. La terre de l'oncle Sam compte en son sein plus de 320 millions d'habitants. Toutefois, j'ai l'impression l'impression qu'à travers tout le pays, il n'existe qu'une personne. À chaque jour, lorsque je lis un article de La Presse, du Devoir, de Radio-Canada ou toute autre source médiatique, la majorité de ceux-ci traite de Donald Trump ou quelque chose en lien avec ce dernier. Je dois admettre qu'il est toujours distrayant et amusant de savoir quelle connerie il a faite ou il s'apprête à faire. Un jour, il boude la chancelière allemande devant les caméras du monde entier et l'autre, il utilise la ville de Pittsburgh en exemple pour justifier le retrait de l'accord de Paris au grand désarroi de ses habitants. L'homme est certainement plaisant pour un temps, mais je dois avouer que j'aime mieux l'humour noir, ou plutôt orange, dans un contexte moins dévastateur. Toujours est-il qu'une fois mon voyage entamé dans la sphère médiatique, j'y découvre un culte voué à la personne du président américain, avec des dizaines d'articles qui lui sont dédiés. Par exemple, Trump critique la suspension par la justice de son décret migratoire pour une deuxième fois en 6 mois. Trump réunit son équipe pour un concert de louanges. Trump traite de l'action l'ancien directeur du FBI de lâche et de menteur. Pour ce dernier article, je dois avouer que le président des États-Unis s'y connaît quand même bien. Je lui fais confiance car pour construire un mur le long de la frontière mexico-américaine, pour régler certains problèmes socio-économiques et par la suite vouloir le faire payer au Mexique, il faut avoir une bonne dose de lâcheté et de mythomanie. En parlant du mur, Trump est récemment allé visiter le mur des Lamentations en Israël, certainement pour demander conseil pour la construction de son propre mur. Le Moyen-Orient, voici encore une autre région qui est traitée de manière occidentalisme par nos médias. Ouvrez les journaux, les titres et leurs contenus vous sauteront au visage. Les talibans progressent, crise du Golfe, Al-Qaïda au Yémen, attentats en Turquie et massacre des Coptes en Égypte. Une majorité des articles, et ce peu importe la source médiatique, nous offre une vision dualiste. Nous et eux, la civilisation et la barbarie, l'ordre démocratique et le chaos terroriste. Bien évidemment, il existe des articles nuancés, mais ceux-ci, plus difficiles à comprendre, sont moins souvent partagés à une époque où le temps nous manque constamment. Nous voulons l'information maintenant, déjà mâchée, digérée, prête à être distribuée avant même que la nouvelle soit analysée correctement. Par exemple, le mot d'ordre sur le Moyen-Orient est État islamique. Depuis l'apparition de ce groupe terroriste, l'attention médiatique est concentrée sur ces derniers. Comme si le Moyen-Orient pouvait se résumer à ce simple sujet. Je ne cherche pas à minimiser l'horreur commise par ceux-ci, mais peut-être que le fait de mettre l'accent quotidiennement sur leurs actions est à la fois un sujet vendeur et un outil efficace pour l'œil, plus que publicité gratuite et constante. Publicité qui finit par porter fruit et malheureusement, les raisins de la colère se font sentir à l'extérieur de la région. Maintenant, les Philippines goûtent à cette amère saveur. L'Asie n'échappe pas au traitement médiatique simpliste que nos journaux offrent jour après jour. Encore une fois, les idées préconçues sont de mise et les sujets pré-mâchés aussi. Donc, en chiffres relatifs, et j'insiste sur le relatif, nous avons 40% de l'actualité médiatique accordée à la Corée du Nord, et ce pour dénoncer la multiplication des tests de tirs de missiles et souligner le danger imminent qu'incarne Kim Jong-un. 30% pour la Chine et son traitement ô combien dégoûtant des droits humains et de son environnement moribonde causé par une pollution extrême. 20% sont donnés à l'allié japonais qui constitue un rempart contre l'extrémiste nord-coréen et l'expansionniste chinois. Et finalement, un maigre 10% pour le RDAPA, soit le reste des autres pays asiatiques. Rien n'est jamais noir ou blanc, mais plutôt teinté de gris. Cela dit, lorsque je lis les grands médias et l'actualité internationale qui me servent au petit déjeuner, j'ai plutôt l'impression que d'un côté il y a du noir et de l'autre du blanc. Tout dépend de l'ennemi du moment. Je ne crois pas qu'il est pertinent de traiter de toutes les régions du monde pour illustrer que les médias de masse, en contexte canadien, pour ce qui nous concerne, présentent les différentes régions du globe avec une lunette teintée. Celle-ci est hautement nocive, puisqu'elle peut avoir de graves impacts sur l'opinion publique, puis sur certains immigrants et même sur les politiques gouvernementales. Le jour où l'humain arrêtera de croire qu'il est le centre de l'univers, peut-être qu'il aura le temps de constater qu'il n'est pas seul. Merci beaucoup.
Merci à toi, Étienne. On se retrouve tout de suite. Donc, ta chronique, Étienne, nous a suscité plusieurs réactions, mais avant d'aller de ton côté, on va quand même écouter Tessie Jean-Paul. Tessie qui nous fait une petite chronique littéraire. Tessie va nous parler aujourd'hui de sa découverte de la semaine. C'est un nouveau segment. Tessie, tu nous parles du ventre des femmes.
Oui, en fait, c'est sorti fin avril. J'ai pu découvrir cette œuvre-là durant un de mes cours qui était sur les études féministes. En fait, je voulais vous apporter un nouveau segment, surtout pour les gens qui désirent en savoir plus, justement sur le féminisme, sur les luttes intersectionnelles et raciales. En fait, pour une petite mise en contexte, je vais parler de l'avortement et des femmes. On parle des avortements entre les années 1960 et 1970, qui étaient interdits dans la plupart des pays occidentaux, la France, etc. Donc, ce livre s'appelle Le ventre des femmes, capitalisme, racisation et puis féminisme. Il retrace en fait des milliers d'avortements qui ont été faits, forcés, entre les années 1960 et 70. Il faut se rappeler que dans plusieurs pays occidentaux, la France notamment, interdisait l'avortement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le catholicisme qui prônait surtout. Par la suite, la chose qui est arrivée, c'est qu'il y a eu de très gros scandales dans les départements d'outre-mer face à certains avortements qui ont été forcés sur certaines femmes, donc principalement les femmes noires qui pendant des années ont vécu certaines comment je pourrais dire plusieurs avortements. Il faut comprendre que dans les politiques d'avortement, il y a eu en France des politiques anti-avortement pour pouvoir permettre à la croissance, à une croissance démographique des Français. Et par exemple dans les pays d'outre-mer, on est allé vraiment avec des politiques qu'on pourrait dire pour réduire la population, puisque la population devenait les enfants, ils avaient de plus en plus d'enfants par famille, et puis ça devenait un fardeau économique pour la France, qui est une des départements d'outre-mer. On parle de l'île de la Réunion, on parle de la Martinique, on parle aussi de la Guadeloupe, qui étaient des anciennes colonies françaises. Les femmes noires sont accusées, sont la cause du sous-développement des colonies. Donc, on met ça sur leur faute parce que, justement, elles font trop d'enfants, ça devient un fardeau beaucoup trop lourd pour l'économie française. Donc, on observe, entre les années 60 jusqu'à les années 80, vraiment une différence de campagne entre la France et puis les pays d'outre-mer. À la France, on essaie d'interdire l'avortement, donc des campagnes plus chrétiennes, et par la suite, dans les départements d'outre-mer, on favorise justement l'avortement, on favorise, entre guillemets, il faut le dire, l'avortement. Comment ça se passait? Souvent, les femmes, elles allaient tout simplement chez le médecin pour un rendez-vous de comment on pourrait dire anodin, et puis ces femmes-là se voyaient avorter, souvent forcées, des femmes qui étaient enceintes de 2, 3 mois, 5 mois se faisaient avorter d'une façon assez violente sans leur consentement. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, puis pourquoi je vous parle justement pourquoi la faute aux médias, en fait l'ouvrage de l'auteur s'appelle Françoise Verger, c'est la première à avoir vraiment remis tout en commun, avoir fait vraiment le premier ouvrage historique rigoureux scientifique sur les faits qui étaient arrivé à ces femmes-là dans les pays d'outre-mer sur les avortements forcés. C'est la première à avoir repris ces histoires-là et puis à les mettre à jour. Donc, ce livre qui est sorti, en fait, à la fin avril, ça vaut la peine d'aller découvrir ça si vous voulez enrichir vos pensées face aux féministes, face aux traitements ethniques. Donc, ça vaut la peine de faire un tour là-dessus.
Pardon, Tessie. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Ben, merci beaucoup, Tessie. On va se quitter sur une petite chanson.
Les eaux magiques du delta, les eaux magiques du delta, tu voyages d'illusions stagnantes en horizon nouveau, we faire dos. Nos petites ombres sur les murs ressemblent à des éoliennes. Les rivières qui montent, mon cœur qui fond, et les chats qui ronronnent.
C'était la chanson Republica de Bengale. On s'excuse pour le petit problème technique juste avant la pause musicale. Donc, Étienne, toi, en début d'émission, tu nous parlais des médias qui ont une vision occidentalo-centriste. Qui sont les grands oubliés? On l'a un peu abordé, mais la dernière fois qu'on a entendu une nouvelle de l'Amérique latine ou encore de l'Afrique, c'est quand? Qu'est-ce que tu penses? Je lance la discussion à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ces impacts-là? Au Moyen-Orient, par exemple, qu'on parle juste de ces conflits-là, mais qu'on oublie tous les autres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, la chose que j'ai à dire, c'est que aujourd'hui, j'écoutais la radio, j'ai lu des articles, et puis on voit une ascendance des pardon. Des crimes haineux dans l'univers canadien. Je pense que ça a beaucoup à voir justement avec le manque de représentation des communautés différentes à Montréal, et pas juste à Montréal, mais dans le Grand Canada, des crimes de plus en plus en hausse sur des crimes religieux, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on ne pourra pas éviter si on a toujours le même point de vue. Et même si je retourne face à la chronique que j'ai faite sur ma découverte sur les avortements forcés dans les départements d'outre-mer, c'est pas quelque chose qu'on en parle. Mmh. Et puis, non seulement on n'en parle pas, mais le vécu de ces femmes-là, on saura jamais, et puis ça crée beaucoup de frustration dans beaucoup de groupes marginalisés. Donc je pense que c'est un problème à régler, parce que c'est pas tout le monde qui est entendu, c'est pas tout le monde qui a une voix, puis c'est ça. Donc ta chronique était vraiment intéressante, Étienne.
Ouais, mais je voulais rebondir. Par exemple, je prends le cas syrien. Avant même que les premiers réfugiés syriens viennent au Québec, viennent à Montréal, viennent peu importe où, avant même, il y avait déjà des clichés préexistants, parce que justement, que ce soit dans, j'ai nommé Le Devoir, La Presse, Radio-Canada, peu importe, mais dans les réseaux à Québec aussi, on se trouve des clichés qui étaient galvaudés ici et là. Puis ces gens-là arrivent ici, oui, ils sont bien accueillis, mais après vient le temps où ils sont dans la population en général, ils vont faire leur marché, peu importe, et ils se font accoster par des clichés, tu sais. Mm. Alors que ces gens-là avaient aucune idée. Alors moi, le danger que je vois là-dedans, c'est justement, c'est l'opinion publique peut être influencée, ne serait-ce par qu'une petite nouvelle qui est répétée constamment encore et encore, et devient une supposée réalité. Bon, là, vous me voyez pas, je fais des oreilles de lapin en ce moment, là, mais c'est tout ça pour dire que je trouve ça assez triste, puis très dangereux, même à long terme, parce que, comme je disais dans ma chronique vite fait, ça peut devenir des politiques gouvernementales. Et du moment qu'on l'a bien vu, sous Harper a décidé de donner plus de financement d'un côté plus que de l'autre, sous prétexte que ce pays-là était bon, puis l'autre était mauvais. Donc, Justin Trudeau, lui, le fait à sa manière, mais ça a une influence sur l'opinion publique qui elle-même a une influence sur le monde politique.
Effectivement.
Mais c'est ça, c'est que c'est un cercle vicieux, puis il y a un effet de mode aussi, moi, je trouve qu'on remarque là. En ce moment, mm-hmm. on parle beaucoup, beaucoup du conflit syrien, parce que là, c'est ça qui est à la mode en ce moment. Il y a plein d'autres choses qui se passent, mais ça vend moins, c'est moins populaire, c'est moins à la mode, c'est moins dans l'opinion publique, on en parle moins, parce que l'élite des pays occidentaux, les petits Syriens, ben ça les fait broyer, puis là, ben oh, je vais en prendre un sous mon aile dans ma famille. Moi, j'en rends ça, là. Ah, nous, on en a pris une famille de Syriens, là. Mais puis le reste, tu sais, c'est tant mieux, Mais il y a vraiment cet effet de mode-là qui va autour d'un conflit, puis c'est un à la fois. Là, en ce moment, c'est les Syriens. Israélo-Palestinien, c'est un peu... C'était à la mode avant. Là, c'est les Syriens, là, ça. Puis les femmes kurdes qui se battent en ce moment, puis le Venezuela qui est en train de complètement s'autodétruire, ben ça, non. Parce que les Syriens, c'est cute, puis c'est à la mode.
La chose que je pense qui est aussi... qui est dangereux aussi dans ce genre de mettre de l'avant toujours le même genre de discours, c'est on n'arrive pas à détacher dans les discours le caractère culturel puis biologisant parce que on met toujours de l'avant les mêmes sociétés. Donc le même petit livre que t'as lu là quand t'avais 6 ans qui était Kirikou, ben il va rester dans ta tête jusqu'à super longtemps, puis tu vas penser vraiment que les gens qui vivent dans un autre coin du monde sont comme ça. Fait qu'on est incapable de détacher dans les discours, les gens seront pas capables de faire la différence entre un discours biologisant ou un discours culturel. Donc ça amène beaucoup de choses que on veut pas. Puis moi tu sais, je pense que ça écarte tout le monde de se faire demander est-ce que tu cuisines du chat chez toi ou t'as-tu des chats, tu sais, comme des questions tellement stupides et banales que sérieusement,
ça c'est vraiment intéressant parce que je sais pas si en même temps notre niveau d'éducation a augmenté en même temps que le niveau d'information qui nous est amené, dans le sens que aujourd'hui on arrive bon, on s'entend, on ouvre notre téléphone, on a de l'information maintenant tout de suite, on est constamment submergé d'informations qui viennent de partout à travers le monde, mais est-ce qu'on a... Notre éducation a été faite en fonction d'être capable d'analyser ou de prendre cette information-là, puis de la comprendre un tant soit peu avant de la recracher. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être ce travail-là qui est pas fait en ce moment, ou peut-être, en tout cas, bref, ça me fait réfléchir.
Mais peut-être que justement cette mondialisation-là, puis cette expansion du web 2.0, puis comment l'information circule aussi rapidement et aussi facilement, même la fausse information, mais que ça va tellement vite, plus vite que notre capacité peut-être d'adaptation à ça. Fait que là, on n'est comme pas préparé. Fait que là, il y a un flux d'informations extrêmes, on est submergé, puis on n'est pas forcément capable de réagir à ça. On n'est pas encore adapté, on n'est pas encore habitué. Puis, est-ce qu'on nous forme vraiment à l'école à gérer ce flot-là, à développer notre esprit critique sur l'information médiatique qu'on reçoit, qui est souvent de la fausse information, justement?
Bonjour, Marie Chabot Johnson. Je me suis introduite dans votre émission pour pouvoir commenter cette belle discussion. Moi, la question que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on parle beaucoup de sens critique, mais sur quoi on base notre sens critique? C'est facile, je trouve, d'avoir un sens critique quand on a des connaissances préalables qui nous permettent de dire « Ah, ça, c'est pas l'information que j'avais toujours reçue dans mes cours d'histoire. » Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est par rapport à des peuples qu'on n'a jamais couverts dans nos cours d'histoire, par exemple, ou que c'est par rapport à des réalités politiques dans lesquelles on n'a aucune idée? Moi, c'est un peu par rapport à ça. Comment vous pouvez exercer votre regard critique par rapport à des nouvelles dont vous n'avez pas nécessairement les connaissances? Je pense que c'est un peu la discussion.
Ben, si je peux me permettre, par sens critique, moi, j'ai plus en tête le fait d'avoir une information, de pas toujours la considérer comme étant vraie, pas toujours la voir comme étant une vérité absolue. Par sens critique, par critique, je pense à faire appel à un peu d'aller chercher, d'aller trouver ses sources un peu partout, de confronter ses sources, de voir qu'il a été une, puis l'autre, puis de voir les opposer, puis après, essayer de créer une espèce d'opinion à travers tout ça. Être critique, je crois que c'est ça aussi.
C'est développer une curiosité intellectuelle. Je pense absolument. Ça fait partie, justement, de cet esprit critique-là, de dire « je connais rien là-dessus, alors il faut que j'aille m'informer avant de pouvoir me faire une idée. Là, j'ai juste une information. Ça se trouve, cette information-là est biaisée.
» Et ça passe par l'éducation aussi. Il faut, dès le plus jeune âge, développer ces réflexes-là auprès des gens. Parce que si on... Dans notre système d'éducation, on n'incite pas à se remettre en question et tout ça, mais
ça va être réglé. Hein. Notre ministre de l'Éducation vient d'ajouter 400 millions de dollars. Alors je pense qu'on va résoudre le problème assez vite avec
pour
ça.
Pour des maternelles 4 ans.
Oui, on s'entend que c'est pour la maternelle 4 ans. Hein. Je suis pas sûre qu'ils vont encore développer un portrait uniforme et objectif du Moyen-Orient à 4 ans.
Ça, les amis, c'est du sensationnalisme.
Pour répondre à Marie, peut-être, là, face au sens critique, la chose que je pourrais trouver... pour faire une balance, c'est le confort. Quand tu lis un article qui vient trop réconforter tes idées, il faut, à la seconde même, il faut que tu te poses une question. Tu sais, je pense qu'on l'a tous, puis peu importe ton niveau d'éducation, tant que t'as pas des difficultés intellectuelles, tu vas être capable de faire, ben là, ça vient trop réconforter mes pensées, ça vient trop, c'est beaucoup trop, c'est comme si c'est moi qui l'avais écrit l'article carrément, ou des fois quand ça vient trop te choquer, quand ça vient de l'émotionnel, là on n'est plus dans le sens critique, là. Tu sais, je pense qu'il faut être capable de détacher les deux.
Les gens, en général, aiment pas souvent être confrontés, et vont encore moins avoir de la facilité à se confronter soi-même. Je perds mon micro.
D'où l'idée de confort que je, tu sais, ouais, faut être capable
sûr, mais
de...
Faut aussi garder en tête qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être pas eu ces outils-là dès le jeune âge, ou qui ont jamais eu la chance de développer ces compétences-là. Puis c'est eux, la seule source d'information qu'ils vont avoir, c'est les médias de masse qui sont confrontés à ça. Donc oui, c'est sûr que c'est bien de partir du fait que chacun a une part de responsabilité dans les sources qu'il va utiliser dans son esprit critique, mais il y a aussi les médias qui ont leur part de responsabilité à ne pas encourager ou véhiculer certaines idées qui vont sans sens critique, qui peuvent être très dommageables en fait pour le collectif.
Même que le rapport de force est plus quand même inégal, parce que les médias de masse ont un pouvoir beaucoup plus grand que vous et moi en ce moment. Je veux dire, si nous on veut amener une idée puis la mettre sur la place publique, il y a peu de chance qu'elle se rende en Abitibi.
D'où l'importance des médias alternatifs aussi, comme choc.ca.
Tout à fait.
Oh, une belle plug.
C'est mon rôle.
Mais tu sais, on parle beaucoup de responsabilité individuelle, mais il faut se rappeler qu'au Québec, il y a encore une grande proportion de la population qui est analphabète fonctionnelle. Plus que trois syllabes, j'ai de la misère à prononcer les mots, là. Faut m'excuser. Mais non, tu sais, il y a toute la télévision par rapport à ça. Comment tu vas pour chercher l'information quand elle n'est pas là? Puis moi, je pense que c'est ça aussi le but de la discussion. Puis le but de la faute aux médias, c'est oui, critiquer l'information qu'on a, mais aussi, c'est beaucoup quelle information on n'a pas. Tu sais, moi, je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai entendu parler de l'Amérique latine, vraiment, dans nos médias, où il y a toujours les raccourcis par rapport à Chavez au Venezuela, puis on est rendu dans une république de bananes, supposément. Sauf que l'affaire, c'est que Chavez est plus là au Venezuela. C'est rendu d'autres mondes, mais est-ce qu'on est vraiment au courant? Je penserais pas, tu sais. Donc, il y a aussi tout ce rapport-là, tu sais. Moi, si j'écoute juste les médias, le Moyen-Orient, je trouve que ça a l'air quelque part de dangereux. Je voudrais pas y aller tout seul, tout d'un coup. Mais c'est drôle, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés en Israël, puis c'était le gros luxe. C'est sûr que c'est Israël, mais c'est d'autres endroits. Mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment un portrait complet? Est-ce qu'on a vraiment, en fait, un portrait complet de la planète? T'sais, qu'est-ce qui se passe en Polynésie ou en Océanie?
Mais le gros problème, c'est que la nouvelle internationale, on le sait tous, ne fait que décliner. La place de la nouvelle internationale ne fait que décliner depuis plusieurs années. Et on se retrouve dans un monde où il y a de plus en plus des conflits multiples et plusieurs choses. Donc, il ne faut pas oublier que tout ce qui va avec la mince partie qui est accordée à ça, tout ce qui revient, c'est le conflit. Donc, les gens, c'est ceux-là que c'est leur seule source d'information, ben ils ont l'impression que c'est la seule chose qu'ils peuvent en tirer. Alors que justement, quand tu voyages dans des pays comme ça, comme le Maroc, présentement, ce qui se passe beaucoup de choses actuellement, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais qui ne nous arrivent pas nécessairement dans nos foyers.
Ou même quand ils arrivent de façon teintée. Nos médias occidentaux de masse ont des lunettes et puis ils ont une vision très manichéenne de tout ce qui se passe, là. Les bons, les mauvais, le méchant, le gentil, celui qui fait la guerre, celui qui veut la démocratie, le nord, le sud, toutes ces affaires-là. Fait que,
mais tu sais, on voit la même dynamique aussi si on passe au Canada ou au Québec. Il y a aussi des régions qui sont omis. Tu sais, je pense un peu à... Je vais te lancer un peu la balle puis te mettre sur la sellette, Corinne, mais tu sais, je sais que toi, tu as une autre vision de la chose parce que tu viens du lac Saint-Jean. Donc, tu as sûrement vu la différence dans les médias quand tu étais au lac Saint-Jean. Quand tu étais à Montréal, moi, je me rappelle, pour avoir vécu 3 ans à Jonquière, que les nouvelles étaient vraiment pas les mêmes. Moi, je pouvais facilement rester connectée à Montréal, mais très peu souvent, je pouvais rester connectée au Saguenay quand j'étais à Montréal. Puis en fait, le seul bloc de nouvelles régionales qu'on avait, c'était les journaux régionaux et notre bloc de nouvelles à 6 heures. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui t'a rendu à la maison à 6 heures PM. C'était plus facile de suivre les manifestations de 2012 que ça l'était de suivre les scandales de corruption à la mairie du Saguenay. Donc,
Oui, c'est sûr. Puis avec ça, ce qui se passe, c'est qu'il se crée un fossé, je pense. C'est que Du côté du lac, on le sait que à Montréal, on est mal représenté. Donc, les nouvelles de Montréal, on est tanné des entendre ou on sera pas intéressé. Puis, ça augmente, contribue à creuser un fossé. C'est comme un cyclique un peu, ça. Je pense que ça s'auto-alimente. Puis, c'est sûr que les initiatives pour contrer ces effets-là sont toujours les bienvenues parce qu'on sait que de plus en plus, les postes de nouvelles sont centralisés. Donc, on en reçoit des nouvelles toujours au compte-goutte. Ou des fois, les nouvelles régionales vont être faites par des gens qui viennent pas de la région non plus. Puis ça, les gens du lac ou du Saguenay ou des régions le savent aussi. Ils savent qu'est-ce qui se passe chez eux. Puis ça crée des frustrations, je pense, dans les deux côtés à ce niveau-là.
Mais je pense que pour faire le pont...
Parmi les autres chroniqueurs, je pense que vous venez tout un peu de la région métropolitaine.
Non.
Non? Oui. C'est quoi ta région?
Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est à côté de Québec.
Ah, ben, c'est, ouais, j'avoue, c'est de la région. C'est de la région parce que dès que t'as Moussin dans ma tête, c'est un peu région, voyant les beaux stéréotypes des Montréalais. Mais comment vous, en tant que Montréalais, puis moi je m'inclus là-dedans, comment vous allez chercher l'information sur les autres régions du Québec?
Je veux dire, franchement, Marie, là, tu sais, je me positionne pas en venant de région, parce que je suis née à Montréal, mais je peux voir vraiment la différence de traitement étant, moi, québécoise d'origine haïtienne, comment on ne traite pas du tout, et comment c'est vraiment plus tard dans ma vie que j'ai su qu'est-ce qui est arrivé au peuple le peuple haïtien, comment aujourd'hui la pauvreté est si... Pourquoi, les gens, ils disent « Ah, mais pourquoi ils sont si pauvres? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les pays du Sud sont si pauvres? » Tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Mais et on
n'ont
a toujours
pas compris le développement.
Exactement. Tu sais, il y a toujours des commentaires un petit peu. Tu sais, on te sort toujours des petits commentaires. Puis en fait, c'est vraiment l'histoire est écrite par des vainqueurs. Et c'est réellement ça. L'histoire est écrite par des vainqueurs. Donc, je suis personnellement la voix de la minorité. Donc, je m'informe sur les autres peuples. Je m'informe sur le mien, donc pour pouvoir être cette voix-là. Mais après, ça vient d'un intérêt très personnel et aussi, comment je pourrais dire, de pouvoir en savoir plus parce que je sais que moi-même, je fais pas partie nécessairement de cette classe dominante-là. Donc, après, je pense que tu le sais, tu sais, dans le sens que j'aurais pu pas vouloir en savoir, tu sais. Mais ça dépend d'où tu te positionnes.
Bien, il y a un point que je voulais amener qui fait un peu le pont entre cette nécessité d'avoir de la couverture de toutes les régions ainsi que de la couverture internationale. Moi, je pense que les médias publics, ça devrait être ça leur mission principale. Radio-Canada, si c'est financé par notre argent public... Ça devrait pas être à la merci des codes d'écoute, à la merci du sensationnalisme. Faudrait que ça soit une source de nouvelles intelligente, neutre, mais qui fait de la couverture internationale comme ça se peut pas, et de la couverture régionale comme ça se peut pas. C'est pas normal qu'on n'entende pas parler de la Gaspésie. C'est pas normal qu'on n'entende pas parler de la Côte-Nord, sauf quand Rambo Gauthier fait des siennes. C'est pas normal qu'on n'entende pas parler de la situation en Ouganda ou en Somalie où il y a des personnes qui meurent à tous les jours dans des atrocités.
Ouais, mais on entend parler de la Saskatchewan, de l'Alberta, du Manitoba.
Oui, c'est ça, bien sûr. Ben,
c'est
il faut,
pour une belle unité canadienne,
il
quand
faut,
même.
Il faut en entendre parler aussi, là, mais je veux
vois,
dire, il y avait un projet.
On parlait de Terre-Neuve, à part quand ils veulent essayer de nous voler, notre électricité.
Non, c'est ça. Mais il y a un projet, de comme relancer un bureau de nouvelles à Télé-Québec, justement, qui serait des nouvelles exclusivement régionales. Puis je pense que pour avoir des idées comme ça de projets structurants, ça pourrait vraiment aider à avoir une meilleure connaissance de nos régions, de notre monde, de ce qui se passe ici. Puis à Radio-Canada de faire l'international.
Oui, et puis
je sais pas
même
ce que vous en pensez.
À Montréal, je pense à ça, tu sais, comme t'sais, si tu nous parles que t'es québécoise d'origine haïtienne, puis je disais, il y a beaucoup de médias un peu plus communautaires pour la communauté italienne, la communauté portugaise,
la communauté roumaine aussi, il y a des petits journaux roumains.
Oui, c'est vrai, j'ai vu l'autre jour à l'épicerie un journal de la communauté roumaine que j'ai fièrement partagé avec Émilien.
Et je ne le connaissais pas.
C'est rare qu'on entend parler
en
de ces
bon
communautés-là, puis je trouve qu'il y a tellement des projets qui sont dynamisants, qui sont faites par eux quand on est capable de lire les journaux en tant que tels, ou qu'on trouve des fois, ils ont des versions avec un côté francophone, parce que j'avoue ne pas connaître toutes les langues. Mais, tu sais, même à travers les grands centres, on voit que finalement, c'est les nouvelles un peu du pouvoir, les nouvelles de la masse, t'sais.
Mais je suis bien d'accord avec ce que tu disais tantôt, Marie, sur la responsabilité des médias. C'est tout à fait vrai que les médias ont une responsabilité sociale face à sa population. On peut pas abrutir les gens, tu sais, on s'entend, mais c'est vrai qu'avec toute cette histoire de code d'écoute et puis on peut pas passer à côté, tu sais. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on est obligé en tant que citoyen de carrément aller chercher nous-mêmes la nouvelle parce que il manque de responsabilité sociale dans au sein des médias, au sein des personnes qui dirigent ces grands médias-là. Donc effectivement, ça vaut la peine de s'informer sur la responsabilité sociale en tant que grand média.
Bon, ben c'est ce qui conclut un petit peu cette discussion-là. Sinon, on n'aura pas de temps pour la chronique de Corinne. Donc, on va se quitter quelques instants en chanson avec la chanson Caps Lock de l'artiste Moutarde Baseball. J'ai trouvé ça drôle comme nom d'artiste. Je me suis dit qu'on allait écouter ça. Donc, c'était Caps Lock de Moutarde Baseball. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment trippé sur la chanson. Donc, c'était une super bonne façon. Dans le fond, on va aller avec Corinne. Corinne, toi, tu vas nous parler d'un festival sur la Côte-Nord, de ta région natale.
C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est à côté, le Tadoussac, c'est vraiment à la limite, à l'embouchure du Saguenay, donc presque.
Donc, c'est quoi ce festival-là exactement?
Ben, je me suis intéressée à vraiment l'organisation parce que c'est assez particulier. Tout d'abord, je vais commencer par dire qu'il y a environ une soixantaine de festivals qui se déroulent au Québec, dont 25 en région, donc c'est à peu près 40%. C'est sûr que les festivals ont des réalités différentes tant qu'on parle de termes de financement, d'achalandage, d'offres culturelles. À travers les festivals régionaux, on trouve une plus petite catégorie encore, ceux qui font de façon autogérée, sans but non lucratif, avec but non lucratif, pardon, et qui font confiance aux festivaliers qui sont invités à s'impliquer et à créer l'événement. Donc, le festival Le Grand Tintamarre réussit à s'organiser sans demander de subvention, ce qui va leur laisser une plus grande liberté et indépendance pour organiser un festival à leur image sans contrainte. Ils vont se financer en organisant des spectacles, que ce soit à Québec, à Sherbrooke ou à Montréal, surtout par La Plug, qui est une organisation basée à Chicoutimi dans la production culturelle. Cette année, pour la première fois, ils ont eu recours au sociofinancement. Ils n'ont pas atteint leur objectif, mais ils vont beaucoup se reposer aussi sur la vente de bière lors de l'événement, qui est vraiment l'activité la plus lucrative. Ce faisant, ils réussissent avec brio à prouver qu'il est possible de se rassembler, de compter sur les compétences et la bonne volonté de chacun afin d'offrir un lieu où ce que les idées, la créativité et les solidarités sont mises de l'avant. Des festivals comme lieu de résistance, réinjecter du social, encourager les artistes émergents et la relève, créer et nourrir les solidarités et le réseautage, voilà la mission que s'est donnée le Grand Tintamarre. Afin de leur donner la parole, je me suis entretenue avec Camille Laurence de l'équipe La Plug qui travaille avec eux depuis quelques années à l'organisation du festival et qui cette année était responsable du volet des arts visuels qui s'est ajouté cette année.
Parfait, ben on va l'écouter, ça commence tout de suite.
Parfait.
Allô, Corinne?
Oui, allô?
Salut, ça va?
Ça va bien, toi?
Oui, super, merci.
Ben d'abord, merci d'avoir accepté de te joindre à nous pour l'émission. On est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Premièrement, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation du Festival du Grand Tintamarre? En fait, ce qu'on veut savoir, c'est surtout c'est quoi le but du projet, le lieu dans lequel il est installé, dans quel esprit c'est mis sur pied finalement. En gros, pour les gens de Montréal ou d'ailleurs, qu'est-ce qui vaut la peine de prendre sa fin de semaine, de longer le fleuve jusqu'à Tadoussac, à l'embouchure de la rivière Saguenay, pour vivre l'expérience du Grand Tintamarre?
Oui, dans le fond, le but du projet, c'est au départ de donner un tremplin aux artistes émergents de la relève, en particulier les étudiants, de donner une plateforme finalement aux gens qui rentrent dans aucun cadre ou qui ne veulent pas le faire. L'essence du projet, c'est un projet qui est basé sur une structure horizontale, sur des idées anti-autoritaires d'opposition. Pourquoi ça se passe à Tadoussac, en fait? Premièrement, c'est parce qu'on se l'est fait offrir il y a de cela 5 ans par le propriétaire de l'auberge, André, l'auberge de jeunesse à Tadoussac. Puis, en fait, Tadoussac, c'est un lieu de rencontre. Donc, nous autres, l'organisation, on vient de Chicoutimi. Les personnes qui habitent à Tadoussac, tout le monde qui participe finalement au festival vient des quatre coins du Québec. Puis on se réunit dans un lieu qui est un lieu de passage à la base touristique où est-ce qu'à l'international, les gens se rencontrent, passent, puis c'est un lieu d'art, c'est un lieu de musique, c'est un lieu de rencontre. On devient amis avec les amis de nos amis, puis c'est ça en fait qui est intéressant d'aller chercher, c'est qu'on va chez personne finalement. Dans un lieu qui est créé toute pièce, si on veut. Peu importe de où est-ce qu'on vient au Québec, c'est un lieu inventé, je dirais, à Tadoussac, le temps de fin de semaine.
Puis j'imagine que vous en profitez aussi avec les paysages qu'il y a là-bas. C'est sûr qu'il n'y a personne qui peut rester indifférent à la plage, au fleuve, qui est vraiment magnifique aussi.
Oui, c'est ça. Ben, ça dépayse tout le monde. Puis c'est un lieu qui respire super bien. C'est vraiment propice à tout ce qu'on peut imaginer de détente, de création, de vivre fou.
Exactement. L'histoire du festival, tu l'as dit un peu, ça a commencé il y a 5 ans. C'est qui était comme à la base les instigateurs? Comment ça a commencé? Puis aussi, à travers les années, comment ça évolue comme festival? Je sais que vous avez ajouté des volets au fil du temps.
En fait, à la base du festival, il y avait André de l'auberge, dont j'ai parlé tantôt. Lui, avec son équipe de l'auberge, il avait commencé le festival. C'était Cégep en vacances à Tadoussac. Ça se voulait une suite de cégep en spectacle. Le but, c'était de donner aux artistes une occasion de se produire dans un contexte un peu plus décontracté, dans des paysages enchanteurs, etc. Mais il s'est rendu compte que c'était beaucoup d'organisation puis de travail pour son équipe qui était déjà à fond dans l'organisation de l'auberge à longueur d'année. Puis il a préféré, parce que c'est aussi beaucoup dans ses valeurs à ce monsieur, de donner à la relève.
Ouais.
C'est pour ça qu'on continue dans cette visée-là. Mm-hmm. C'est parce que c'est lui qui nous a créé. Mais dans le fond, il l'a donné à deux jeunes de 18 ans, 18-19 ans à ce moment-là, Alexandre Bédard puis Philémon Beaulieu, qui avaient parti une petite boîte de production qui s'appelait la Plug Production,
mm-hmm.
qui viennent de Chicoutimi. Puis il leur a dit, je pense que comme 2-3 mois d'avis avant le festival, « Hey, les gars, ça vous tente dessus? » Puis ils ont fait « Ben oui, tu sais. »
C'est un beau défi.
Ils sont lancés dans le vide. Oui. Ils ont relevé le défi. Puis, ben, c'est deux personnes qui savent extrêmement bien s'entourer, fait que, qui sont très rassembleurs, puis qui ont su aller chercher comme la participation de toute leur vie. Puis, dans le fond, c'est ça. Tu sais, comment que ça évolue? C'est de cette manière-là. C'est un peu comme Wikipédia. Genre, tout le monde peut rajouter tout ce qu'il veut, finalement.
Il y a beaucoup de liberté dans l'organisation.
Pardon?
Il y a beaucoup de liberté dans votre équipe et dans votre proposition, en fait.
C'est en y allant qu'on se rend compte de c'est quoi l'esprit. Puis là, on se dit, ah, ben, tu sais, comme ça, moi, j'aurais trouvé que ça aurait mieux marché de même. Ben là, tu sais, comme quand tu dis pas, ben, faut que tu t'impliques parce qu'il y a personne qui va le faire à ta place. Ou tu dis, ah, ben, moi, j'aimerais ça qu'il y ait un volet en art visuel. Ben, c'est ça que j'ai fait. Tu sais, ben, il y avait quelqu'un qui l'avait parti avant moi, que ça avait existé une année. Puis cette personne-là, elle m'a dit « Ah, ben moi, sans faire ça, je m'en vais à Montréal, puis c'est comme j'en
viendrai pas. » la relève.
Fait que j'ai fait « Ah, OK, parfait, je vais le faire. » Ouais, c'est ça. Puis ça se passe, c'est la même chose avec le relais sociopolitique, c'est l'année qui a vu le jour. Mm-hmm. Puis quelqu'un, ça faisait plusieurs années qu'il fait partie de l'organisation des bénévoles ou comme festivalier aussi. Puis il s'est dit « Ben écoute, c'est mon trip dans la vie, puis ça serait une bonne place, tu sais, pour expérimenter des idées, puis des... » Fait que ça me tente de faire des conférences, des publications, il met ça sur pied. Puis l'équipe, dans le fond, a grossi. Puis plus qu'on est capable d'accueillir du monde qu'on va épauler dans le montage de leur volet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire à la place de personne, mais on peut, plus qu'on a de ressources à mettre à la disposition des gens qui veulent monter quelque chose.
Vraiment, politiquement, comme tu le dis, vous êtes un festival qui est engagé. Qui s'inscrit dans une démarche qui est anti-autoritaire, qui est dans l'autogestion aussi, qui suit beaucoup la mouvance de 2012 aussi après le conflit étudiant, surtout en se posant à contre-courant finalement du capitalisme puis des institutions. Pourquoi ce genre d'initiative-là finalement est essentiel à l'effervescence culturelle au Québec et à quel besoin ça répond selon toi?
Ben, c'est un espace de rencontre entre des gens qui soit rentrent dans aucun cadre ou qui veulent pas le faire. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un espace qui est nécessaire parce que c'est une alternative ou participative dans laquelle on peut s'intégrer à n'importe quelle condition, avec n'importe quoi finalement, avec n'importe quelle idée. Mm-hmm. C'est un espace de création libre, de réseautage, je dirais, organique. Entre une communauté qui est un peu tissée en toile d'araignée,
mm-hmm.
avec les amis des amis, avec là ça va de plus en plus loin dans le réseau, mais tu sais, on sent toujours le réseau.
Ouais.
Les gens qui se connaissent, qui entendent parler du festival de bouche à oreille, c'est un tremplin pour une relève qui n'aurait pas nécessairement de plateforme pour se faire voir. Donc c'est un peu dans le but d'offrir quelque chose qui n'existe pas ailleurs, puis d'aller cibler une autre clientèle.
Mm-hmm.
C'est un espace d'expérimentation d'idées aussi, puis notre but, c'est d'expérimenter un modèle d'organisation politique différent à petite échelle. Tu sais, on cherche à horizontaliser nos rapports entre nous, puis avec les festivaliers au sein de l'organisation, à développer des relations où l'autorité, finalement, elle est informelle.
Mm-hmm.
Elle est, elle est, je dirais, réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire que on va écouter ou aller chercher la personne qui va être la plus qualifiée pour une question en particulier. Donc, il y a personne qui est au-dessus d'une autre, mais on est quand même responsable des volets ou responsable de certains aspects de l'organisation. Puis ça, c'est des places qui sont interchangeables, mais chaque personne amène son bagage, puis ses compétences, son réseau, ses contacts à l'organisation. Puis on va se référer toujours à ceux, finalement, qui sont les plus appropriés dans des situations différentes. Je dirais qu'en définitive, c'est une expérience transformationnelle qu'on s'offre à nous autres mêmes à travers la participation du public, à travers aussi le fait que les gens soient là, qu'ils soient au rendez-vous, qu'ils participent à leur tour en offrant ce dans lequel ils sont bons, qui nous permet de nous développer, tu sais, dans l'événementiel, mais aussi dans la médiation culturelle, qui nous donne une expérience humaine vraiment forte aussi, mais aussi une expérience d'organisation avec la ville, avec les permis, avec gérer notre budget d'une manière le plus simple possible, parce que justement, tu sais, c'est quelque chose que si on pouvait éliminer, on l'éliminerait. Par contre, on peut pas.
Non, c'est ça.
C'est de voir justement comment est-ce qu'on peut prendre les choses qui nous sont données dans la société, les moyens qui sont à notre disposition, puis les transformer, les approprier, puis d'en faire quelque chose qui respecte fondamentalement nos valeurs, puis qui crée un espace où est-ce qu'à travers ces choses-là, on réussit à échapper d'une certaine manière à un système qu'on critique.
Ben écoute, bravo pour ça. Bravo à toi et bravo à toute ton équipe. J'étais là, j'ai passé une super belle fin de semaine. C'était festif, c'était rassembleur, c'était riche en contenu artistique et de tout genre. Donc pour ça, bravo à tout le monde. Puis j'espère qu'on va inviter le plus de monde possible à joindre à nous peut-être pour une 6e édition l'année prochaine.
Oui, ça m'a fait plaisir, merci. Fait qu'on se revoit l'année prochaine, la première semaine de juin, du jeudi au dimanche. C'est un rendez-vous.
Super, merci.
Ça m'a fait plaisir, bonne soirée.
Toi aussi.
Donc, Corinne, un festival donc indépendant. Beaucoup de gens passionnés, très peu de moyens, très difficile de percer aussi, de se faire connaître. Donc, le sociofinancement, elle en a parlé. Puis, donc, ça a quand même été une réussite. Là.
Oui, ça a été une réussite. Cette année, je pense qu'elle me disait qu'on a été 400 festivaliers sur le site. Il y a des années antérieures où on a monté jusqu'à 800 personnes aussi. Surtout, c'est basé sur les réseaux sociaux, sur le bouche à oreille, sur vraiment là, les solidarités. Puis c'est ça qui est beau de voir qu'ils sont capables de monter une fin de semaine comme ça, où ce que je pense qu'il y a tellement de discussions politiques, culturelles, sociales qui se font là pendant la fin de semaine. C'est sur le bord du fleuve, les gens se sentent libres. Puis c'est comme un nouveau départ à chaque fois de retourner chacun dans nos villes, chacun dans nos communautés respectives pour partager qu'est-ce qu'on en a retiré de cette expérience-là, en fait.
Oui, donc tu nous lances l'invitation pour les années prochaines.
Bien sûr, à Tadoussac au début juin.
Ça va nous faire plaisir de t'accompagner. J'aimerais avoir encore un petit peu vos réactions là, par rapport à justement ces événements-là dont on n'entend pas parler dans les grands médias. On manque cet accès-là aux médias régionaux, puis il manque de communication, justement, de canaux de communication. Donc, ces événements-là, on n'en aurait jamais entendu parler si Corinne connaissait pas déjà l'événement. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette situation-là.
Moi, je pense que, tu sais, j'ai eu la chance de travailler durant mon bac avec des gens qui habitaient en région, qui voulaient développer les espaces culturels en région. Et puis, la chose qu'on se rend compte, en tout cas, que je me suis rendu compte beaucoup, c'est que il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a pas de salaire, tu sais, dans le sens qu'ils vont prendre une stagiaire, ils vont avoir une directrice des communications, puis c'est tout. C'est bénévole. Mmh. Tu sais, fait que ça empêche, non seulement le sociofinancement empêche ces initiatives-là de pouvoir perdurer dans le temps. Aussi, la chose que j'ai notée, c'est il y a plusieurs festivals qui se font pas nécessairement très loin de Montréal, mais tu sais, tu parlais de Charlevoix tantôt, Frédéric. La chose qui arrive, c'est que c'est tellement... Tu sais, si t'as pas de voiture, c'est difficile d'accès à ces endroits-là. Ouais. Donc, il faut être capable, il faut repenser l'aménagement, il faut repenser le transport, autant pour les personnes...
Sauf qu'au Québec, on a un territoire qui est énorme.
C'est sûr, c'est sûr, je suis d'accord, mais tu sais, il y a quand même, je pense qu'il y a quelque chose à faire, surtout si on veut être capable d'aller dynamiser les régions, puis plus qu'on est capable de se rendre, plus que il y a de l'argent qui va être généré, plus d'économies, donc ça vaut la peine d'y repenser la façon qu'on peut voyager. C'est pas juste dans OK, on va penser les prescriptions culturelles, mais c'est bien beau d'avoir un festival, mais si personne peut se rendre à ton festival, il y a un problème. Puis je pense que c'est aux villes puis aux mairies de pouvoir se pencher là-dessus et de pouvoir permettre aux gens de rendre accessible leur site.
Le paradoxe avec tout ça, c'est que je pense que ce genre de festival-là ne veut pas non plus être dans les médias de masse, ne veut pas non plus se fier sur les institutions. Donc, c'est quelque chose qui se développe un peu en parallèle. Puis, nous, la jeunesse, on entend beaucoup de gens qui vont voyager en Europe, qui vont voyager en Amérique du Sud, qui vont aller voyager, faire des trucs sur le pouce. Mais personne va faire ça au Québec ici. Pourquoi, tu sais? C'est ça aussi la question de se dire que on veut le faire ailleurs, mais on pense pas à le faire chez nous. Puis Tadoussac, oui, c'est 5 heures d'auto, mais c'est vraiment pas si difficile que ça d'y accéder. Tu sais, quand on parle à des gens qui vont aller à New York ou à n'importe quoi, ça peut être quelque chose qui se planifie d'avance puis qui peut être intéressant, mais c'est la question d'essayer de diffuser ça dans des canaux qui sont plus autrement écoutés par d'autres communautés aussi, ou d'autres groupes de gens, oui. Surtout.
Malheureusement, c'est tout le temps dont on disposait.
C'est pas grave. Ben, la prochaine émission, écoutez, je vais dire mon commentaire pour commencer.
Exact. On va commencer avec ton commentaire. Souvenez-vous-en. Donc, merci Corinne Asselin de nous avoir fait découvrir.
Ça fait plaisir. Merci à Camille aussi, surtout.
Oui, merci à Camille de nous avoir accordé l'entrevue. Je rappelle que vous étiez Corinne Asselin, Étienne Tardy-Paradis, Frédéric Routier, Tessie Jean-Paul, Marie Chabot-Johnson. C'était Émilien Roscanou. Vous écoutiez La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca. Et on se laisse jusqu'à la semaine prochaine, mais avant, vous allez écouter la chanson Layin' Sleek feat. Mila Dime de K8A. À la semaine prochaine. Softly pull out a silver line from my head. See if you look ahead. Open a world that could spread for miles. I could walk miles away from shallow undertones. Sending waves to your ears. Mindful pieces you hear. Cater can't take it cause it's passing away. And foggy days won't escape. Your aura's glowing through gray.
Strenuous like jail sentences. Connect my thoughts like commas through the sentences. So my mind can be at ease on the penmanship. Not a care in the world, and my intention is to hit you with the rear. From the ghettos and favelas all the way to Beverly Hills, people can feel the same story universally spoken. Whether it's blatant hate or my heart has been broken, I'm trying to get your mind open.
with these soliloquies. Think about the possibilities that we can reach. I use the weapon of speech to teach those inherently meek. The light can be the opposite of bleak. It's vibrant, like all the faces from places I've been. I'm at the table, I'm grateful, amen. Before I eat and when I sleep, it gets deep like the words of my voice. Negativity, it's just a choice. Sign of the times and the struggles we all go through. I know I'm out of my mind, but still I hope to persuade you to take a trip with me. Forget your troubles and your worries and the flip you see. Just recline with the intertwine of your inner mind. Keep hustling, cause all good things come with time. These are my thoughts and the things I try to get across. Even when the lines are blurred and all is lost, we gotta keep it moving, we gotta keep it moving. We gotta do it for you and yours and all us humans. We gotta keep it moving, we gotta keep it moving. We gotta do it for you and yours and all us humans.
Remember.